Enchanté d'être parmi vous aujourd'hui. Je me présente rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Benjamin Jean, je suis juriste de formation et dans le domaine du libre, de l'open source, de l'open data, tous ces sujets depuis un certain nombre d'années maintenant. Très impliqué aussi dans le secteur communautaire et notamment dans Framasoft qui était évoqué à l'instant. Là, le sujet de cette... Je ne l'ai pas évoqué. J'ai mis en place, fondé une société en 2011 qui fait du conseil, alors plutôt grand groupe, des grandes sociétés, mais très grandes sociétés, qui commencent à travailler à base de composants libres open source et qui se posent des questions qui sont à la fois juridiques, gestion des licences, gestion de la propriété intellectuelle, mais d'autres types de questions qui sont notamment celles de la gestion des rapports avec les communautés, de la mise en place de communautés internes, l'interaction avec les communautés externes. Et d'autres qui sont aussi plus techniques, la gestion des projets, comment faire quand en interne on veut utiliser des projets open source, comment ça fonctionne, quel choix doit-on avoir, comment rationaliser notre usage, ce type de questions. Ça, c'est ce qu'on fait. Le but de la présentation d'aujourd'hui, donc en un temps record, c'est d'essayer de partager cette réflexion qu'on a sur le rôle des communautés et surtout l'impact que ça peut avoir sur les grands utilisateurs ou les gens qui font le choix du libre. De par ma formation, de mon parcours, j'ai très fréquemment été rencontré à des personnes qui, par le biais des licences, souhaitaient se mettre en conformité, c'est-à-dire respecter le libre en respectant les licences libres, ce qui est très bien dans l'idée. Mais très rapidement, ils se sont rendus compte que ce n'était pas suffisant. C'est-à-dire que simplement respecter les licences, c'est très bien. C'est-à-dire juridiquement, on a fait les choses bien. Pour un juriste, c'est satisfaisant. Mais après, on ne tire pas profit de tout le potentiel qu'a le libre, l'open source. La présentation est plus orientée logiciel. Mais ce que je dis, ça pourrait très bien s'appliquer à des projets open data comme OpenStreetMap qui est présent à côté. Ou d'autres projets dans l'open hardware, dans l'open design, l'open tout ce que vous voulez. Qui fonctionne aussi un peu de la même façon, c'est-à-dire avec des communautés qui agrègent une série d'individus, personnes physiques, de personnes morales, de tout type, et des impératifs aussi économiques. Donc très rapidement, le but, au travers de quelques slides, je ne sais plus combien j'en ai, peut-être moins d'une dizaine, c'est de rappeler donc quels sont les intérêts du logiciel libre. Là, j'irai très rapidement. L'intérêt des communautés. Et ensuite, imaginer les communautés comme éditrices de logiciels, ce qu'on voit de plus en plus. Définir l'interaction, le rôle des fondations, en tout cas des structures légales, fondations, associations, entreprises, face aux communautés. Ça aussi, c'est très important de comprendre qu'il y a la communauté, il y a une structure qui ne représente pas la communauté et qui l'accompagne la plupart du temps. Et ensuite, il y a d'autres acteurs qui sont externes à la communauté et qui souhaitent interagir avec cette dernière. Et donc justement les spécificités liées à cette interaction, à ce souhait de collaborer avec les communautés. Donc première série de remarques, ces réflexions, ça concerne tout le monde. C'est-à-dire que même lorsqu'on est un individu, personne physique, qui installe Linux sur son PC avec toute la suite logicielle sous licence libre, on s'intéresse rapidement, en tout cas on est confronté à la communauté. La première fois que j'ai installé Ubuntu, je suis allé sur le forum Ubuntu.fr, j'ai rencontré plein de gens qui me répondaient à mes questions. J'avais ce rapport avec la communauté. Déjà, ça, c'est non pas dérangeant, mais déstabilisant. On n'a pas l'habitude. Avant d'utiliser le libre, la plupart des gens sont plus dans une relation. Ils achètent une licence dans un grand magasin de distribution, ils achètent une licence où c'est déjà installé sur leur PC la plupart du temps. En cas de problème, ils cherchent des forums à droite à gauche, mais il n'y a pas un fan club, s'il y en a parfois, du grand éditeur en question. Qui est ravi de promouvoir la solution. Non, il y a des gens parfois très compétents qui parfois répondent, mais c'est vraiment pas aussi poussé que ça l'est dans le domaine du libre. Bon, ça intéresse aussi cette présentation, ces réflexions intéressent aussi tout à fait les organisations et les sociétés de manière générale. Et c'est ce que j'indique ensuite, paradoxalement, c'est ceux qui sont, à mon avis, les plus intéressés par cette réflexion sur le rôle que les communautés peuvent avoir dans le bénéfice qu'ils vont tirer du libre et de l'open source, qui sont le plus en retard. Et donc, ça intéresse aussi les projets commerciaux et non commerciaux. Alors, par ces sociétés ou par ces organisations qui, je vous le disais, peuvent énormément tirer profit de ces réflexions sur les communautés, On a les grands utilisateurs logiciels libres, des gens qui, souvent des administrations, des collectivités ou des grands groupes, décident finalement de privilégier le libre à l'open source, le libre aux propriétaires, donc aux anciens logiciels qu'ils utilisaient. Et du coup, à chaque fois qu'ils choisissent un nouveau logiciel, ils vont privilégier du libre. On a ceux qui, donc c'est les grands utilisateurs, les grands adoptants, on a ceux qui, et c'est de plus en plus fréquent, notamment dans le domaine de l'embarqué, vont distribuer des centaines, voire des milliers de composants libres open source dans tous les matériels que vous achetez ensuite en grande surface, à droite ou à gauche. Et ça, que ce soit en tant qu'acheteur, consommateur, vous et moi, ou en tant que grand groupe, vous achetez une énorme baie pour faire du traitement de je ne sais quoi, dedans vous allez avoir plein d'open source, plein de libres d'open source. Mais eux-mêmes, ceux qui distribuent ce matériel avec énormément de logiciels à l'intérieur, utilisent énormément de libres, et doivent s'intéresser aussi aux communautés qui sont derrière. Et bien sûr, les éditeurs. Les éditeurs qui soit souhaitent que leur projet ait une communauté pour les supporter, soit intègrent au sein de leur projet des, entre guillemets, sous-projets, des composants qui sont issus de communautés, en tout cas d'un autre projet, et qui ont besoin d'avoir un rôle bien, qui a une interaction bien claire avec ces autres personnes. Les enjeux, donc je disais que j'irai très rapidement dessus. Je crois que ce qui a le plus amené à l'adoption du libre, même si ce n'est pas l'essentiel, c'est les aspects économiques. Tout simplement la gratuité qui, pour beaucoup, permet de favoriser le libre. Et parfois, je dirais que les gens qui poussent le libre, même dans les administrations, les entreprises, le font sur l'argument de la gratuité, alors même qu'il y a derrière ça, ils sont bien plus convaincus par d'autres que je cite après, qui sont éthiques, qui sont sociétaux, en termes de transparence, en termes de souveraineté. Il y a plein d'autres enjeux, mais l'argument économique est quand même le plus percutant quand tous les budgets des SI diminuent, toutes les grandes boîtes. Ce que je mettais rapidement, c'est qu'il y a quelques sociétés encore quelques SI de sociétés qui pensent que finalement elles n'ont pas à justifier les coûts, les dépenses liées à l'acquisition de logiciels. Mais c'est de moins en moins fréquent. Et quand maintenant on fait le ratio, on compare l'argent dépensé dans des, là c'est plus à l'échelle de l'État, l'argent dépensé dans des solutions propriétaires, le nombre d'employés qui en face, l'argent dépensé dans des solutions libres open source, le nombre d'employés qui en face, ça rapporte de 10 ou de 50 pour 1. Donc c'est vraiment, tout le monde a intérêt, que ce soit le secteur public ou le secteur privé, à adopter le libre. Après, est-ce qu'ils le font? Pas nécessairement. C'est quand même un levier important. Enjeux pragmatiques, techniques, mais simplement la plupart des logiciels sont libres et c'est un fait. Et les enjeux juridiques, c'est pour ça que je voulais aussi le citer. En fait, de plus en plus fréquemment, des clients ou d'autres personnes qu'on croise se posent ces problèmes, voire passent complètement libre, pas nécessairement par souhait, pas par stratégie, pas par volonté d'économiser de l'argent, mais simplement parce qu'ils sont dans une situation où ils ne peuvent pas ne pas le faire. Parce qu'ils utilisent par exemple un composant, une brique fondamentale qui est sous licence libre, ou parce qu'ils ont, ils ont fait le choix d'adhérer à un consortium qui promeut, en tout cas qui impose la diffusion sous licence libre de tout ce qui est fait au sein du consortium, ou parce qu'ils ont, ils ont été financés par une région qui leur demande que la redistribution du produit en question soit sous licence libre. C'est aussi des choses qu'on voit de plus en plus souvent et qui du coup favorisent directement ou indirectement le logiciel libre. Alors, les différents modes qu'on connaît, l'édition de logiciels. Alors le temps est court, donc je fais très vite, mais je vais essayer de faire encore très vite, et comme ça après on pourra interagir, parce que c'est quand même plus intéressant si on peut échanger. Donc les différents modèles d'édition qu'on peut retrouver pour des projets qui sont libres open source, c'est soit assez classique, une société qui se dit, tiens, j'ai un logiciel, le marché est plutôt verrouillé, je vais diffuser un logiciel concurrent sous licence libre. Comme ça, les gens vont commencer à l'utiliser, ils vont apprécier, ils vont faire la promotion de leur côté, et puis un jour ou l'autre, il y a peut-être qu'un centième des utilisateurs vont devenir des clients, donc je vais réussir à rentrer dans le marché. Un très bon exemple de ce modèle d'édition, en tout cas à mes yeux, c'est MySQL, c'était l'exemple le plus représentatif du succès d'un éditeur qui a une solution donc, complètement libre open source, et qui rentre dans un marché et qui a maintenant une part relativement importante. Talent, pareil, qui s'est servi du libre un peu pour rentrer là où le marché était complètement verrouillé. Il y a des limites, très importantes, et pour être franc, je pense que ce modèle-là marche de moins en moins bien pour la simple et bonne raison que généralement, ces sociétés avaient une solution qui était libre communautaire, Et à côté de ça, ils avaient une solution commerciale. L'idée, c'était que le client entreprise, qui avait des enjeux stratégiques, commerciaux importants, fasse le choix d'adopter la solution commerciale. Disant, tiens, on va passer par le juriste, on va passer par le service juridique, par le service des achats, on va passer par tous ces services-là. Il y en a bien un qui va dire, oula, je ne comprends pas tout, je préfère qu'on utilise la version classique, traditionnelle, commerciale. Là, je connais, on signe le contrat, ce n'est pas très cher. Et ensuite, je distribue le logiciel avec la version classique, standard, commerciale. Tout va bien. Le problème, c'est qu'au fur et à mesure, le libre et l'open source sont de mieux en mieux compris, connus. Et maintenant, la plupart des sociétés, bon, aussi pour gagner un peu d'argent, mais la plupart des sociétés choisissent, dès lors qu'elles se rendent compte qu'elles respectent les licences libres, de diffuser la version sous licence GNU/GPL, par exemple, de MySQL. Auparavant, elles couraient le risque de le faire. Maintenant, elles le font en connaissance de cause. Et ça, c'est un grand changement. Ce qui fait d'ailleurs qu'à mes yeux, ces modèles de double licence fonctionnent de moins en moins bien. Bon, quoi qu'il en soit, ça existe encore. Ensuite, on a des modèles un peu hybrides où c'est une société, ou un individu, mais qui est souvent après se constitue en société, qui développe un logiciel, le diffuse sous licence libre et joue le jeu avec la communauté. C'est-à-dire qu'il y a une communauté qui le rejoint, qui continue et qui collabore au développement du logiciel. Alors ça arrive. Non. Ça arrive de gérer de plus en plus, peut-être même que c'est la nouvelle vague des sociétés qui cherchent à jouer le jeu, donc à diffuser des logiciels libres, mais aussi à avoir un rapport sain avec sa communauté d'utilisateurs, contributeurs, personnes physiques, mais aussi sa communauté au sens de clients, partenaires, distributeurs et compagnie. La difficulté du modèle, c'est que l'entreprise qui commercialise donc quand même ce produit par ce biais, elle a tout intérêt, notamment si elle veut ensuite être vendue, ou si elle change de direction, peu importe, elle peut avoir l'intérêt à fermer complètement son modèle. Donc il y a une perte de confiance, il y a une difficulté à maintenir la confiance avec la communauté, qui est gérée par les licences, éventuellement par la création d'une fondation à part, mais ça j'y reviendrai, qui rend plus difficile en fait ce modèle-là. C'est possible, ça demande, je pense que culturellement ça demande un peu de temps aussi pour être bien fonctionnel, mais c'est moins simple, c'est pas le plus simple. On a un dernier modèle qui lui est beaucoup plus orienté libre, je dirais total, qui est le modèle communautaire. Là, par communauté, il faut entendre la communauté d'entreprise de plus en plus, mais communauté aussi de hybride avec des individus, personnes physiques, encore une fois. Je suis juriste, alors quand je dis individus, personnes physiques, c'est un peu redondant, mais des hommes et des femmes comme vous et moi, des gens normaux. Mais aussi des sociétés, des organisations, des personnes publiques, donc des collectivités, des administrations, tout ça. Donc ces communautés, c'est plein de gens qui choisissent de se rejoindre, de travailler ensemble pour un objectif commun. C'est le principe de la communauté, c'est ça. Et tout l'intérêt, je ne sais plus si je voulais mettre là, oui, c'est ça. Tout l'intérêt de ce modèle, c'est que lorsqu'on est avec une société qui capitalise, donc qui édite son logiciel et qui essaie d'avoir une communauté, généralement, c'est la société qui possède tous les droits. Si jamais elle veut changer de licence, elle peut le faire, c'est très pratique. Si jamais elle veut complètement fermer, elle peut le faire. Donc, ce qui rend un peu plus faible justement la confiance, en tout cas l'équilibre entre ce que les contributeurs apportent et attendent de la société et ce que la société peut leur apporter. Quand on est dans ce modèle-là de communauté, en fait, tout le monde décide d'une règle. Alors, il y a la licence, mais il y a éventuellement, dans le cas comme Mozilla, GNOME, je crois que je les cite après, des règles globales de gouvernance de la structure. Mais tout le monde va céder ses droits. Alors, soit tout le monde va céder ses droits pour que la structure, l'association, la fondation qui a été créée, décide de l'évolution. Mais c'est une association, donc elle sera limitée, j'imagine le cas de l'association, dans la réutilisation qu'elle pourra faire du code. Soit, c'est un autre modèle qui marche aussi plutôt bien. Il n'y a aucune cession de droits. Tous les contributeurs contribuent sous la même licence libre, et au final, il y a tellement d'auteurs, de titulaires de droits sur un projet qui est distribué, la prise de décision est tellement distribuée que personne ne peut changer de licence. Alors là, je vais peut-être m'expliquer ce que j'ai dit rapidement. Le principe du droit d'auteur, c'est que si je suis auteur, je décide de l'exploitation de mon œuvre. Ça, c'est le principe. Si tous dans la salle, ensemble, on développe un logiciel, je ne sais pas combien on est, peut-être 30, 40, 50, tous ensemble, on est auteur. C'est-à-dire que si tous ensemble, on veut une licence, il faut qu'unanimement, on accepte la même licence. Alors quand on est 50, ça va. Quand on est 5000, quand on est 50 000, c'est impossible. Mais finalement, c'est aussi un gage de pérennité. C'est-à-dire qu'on sait, dans ce contexte-là, qu'on ne pourra pas changer de licence. Donc par le bazar, on crée un certain ordre. En tout cas, on limite le champ des possibles, et finalement, les gens avancent parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Chose qui fonctionne plutôt bien aussi. Alors, que gèrent les communautés ? à l'échelle d'un projet. Quand je parle d'éditeur, généralement, la communauté, c'est elle qui décide. Alors, suivant les communautés, les types de projets, ça peut être au cas par cas, ça peut être avec une vision à moyen terme, mais c'est elle qui va donner la direction. L'évolution du projet se fait au regard de l'implication des membres, des contributeurs de la communauté. Tout ce qui est mutualisation, tout ce qui est maintenance, tout ce qui est support, évolution, communication, se fait généralement au sein de la communauté. L'intérêt pour l'utilisateur final, alors je reviens sur la définition qui a été donnée tout à l'heure du logiciel libre, je reviens non pas pour la contredire, mais au contraire pour appuyer ce qui a été dit. C'est-à-dire que l'objectif, quand vous avez la définition de la FSF, la Free Software Foundation, c'est que l'utilisateur final soit libre. Le mot principal dans cette phrase, c'est utilisateur. L'objectif, c'est cet utilisateur, celui qui a le logiciel devant lui, doit être libre. Après, pour qu'il soit libre, on lui assure certaines garanties, on met une licence sur le code, on fait plein de choses, mais l'objectif, c'est que cet utilisateur soit libre. Là, en se reposant sur une communauté pour les choix relatifs à l'exploitation possible, en tout cas à l'évolution du logiciel, on pérennise cette liberté. C'est-à-dire que plus personne n'est en capacité seul de choisir du sens que va avoir ce projet. C'est tous ensemble qu'il faudra définir cette orientation. L'intérêt pour les grands utilisateurs, c'est aussi de tirer profit de ce que je viens de dire juste avant, la mutualisation, la maintenance, le support, l'évolution, la communication. Il n'y a rien de pire, et je l'ai vécu, pour une société, alors même une collectivité, je vais prendre un exemple, je ne donnerai pas de nom, 5 minutes, un exemple, je ne donnerai pas de nom. Imaginez une collectivité qui dépense 15 millions dans l'édition d'un logiciel qu'elle diffuse sous licence libre. Ce qu'elle veut après ça, c'est qu'il y ait une utilisation. Ce qu'elle veut, c'est que les autres collectivités reprennent le code, contribuent à leur tour, que tout le monde contribue à ce pot commun, c'est le principe du logiciel libre. Et finalement, tout le monde gagne à travailler ensemble à ce que ce projet se développe. Mais ce qui se passe, c'est que parfois les acteurs ne jouent pas tous... Il y a d'autres acteurs qui arrivent et qui ne jouent pas le jeu attendu. Quand on se retrouve avec 10 projets différents qui vont dans 10 différentes directions, 10 forks, vous avez un projet de base, il y a déjà 10 forks au bout de 3-4 ans. Il n'y a aucune utilisation, aucune évolution qui puisse être prise par les autres. On se retrouve avec une dépense qui est conséquente à la base, d'autres dépenses par la suite, et aucune possibilité de faire se rejoindre le tout. Ben ça, c'est un exemple concret. Je citerai pas le nom du projet, mais tout ça pour dire que en fait, l'étape qui aurait dû être initiée dès la conception même du projet, qui a été faite ensuite, ça a été de créer une vraie communauté. Mais de s'assurer que tous les membres utilisateurs finaux qui étaient en capacité de donner de l'argent à ce moment-là se fédèrent dans le cadre d'une structure qui a été une association, que cette association gère la roadmap du projet, qu'elle s'assure que le support soit soumis à certains critères, qu'elle s'assure que les évolutions soient définies dans le cadre voulu par tous les membres, que la communication aussi, tout ça, qu'elle fédère en fait au sein d'une communauté qui a été une association. Alors, très rapidement, j'ai donné plein d'éléments, mais c'est vrai que c'est difficile. Là, depuis tout à l'heure, j'ai tendance à parler d'association parce que c'est le plus simple. Quand on pense à une structure légale à accoler à un projet communautaire, le plus simple, c'est l'association, parce que c'est association à but non lucratif, on n'a pas trop de craintes. Suivant les pays, c'est d'autres choix que l'association qui est retenue. En France, on n'a pas trop le choix. En fait, on est très limité. Soit c'est une association de fait, c'est-à-dire qu'on n'a rien créé, mais on fonctionne comme une association. Soit c'est une association qui a été créée, loi 1901, et dans ce cas-là, on connaît très bien le statut. L'exemple que je voulais prendre, c'est celui de LibreOffice, qui est un projet qui est relativement récent, donc The Document Foundation. Un projet qui est relativement récent, et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont fait l'étude de tous les structures légales qui pouvaient être associées à une communauté en support de cette communauté, et finalement ils se sont tournés vers la fondation de droit allemand. Parce que c'était ils ont fait un comparatif, un tableau, une matrice, et c'était ce qui répondait le mieux à leurs objectifs. Et sur ce sujet, je vous invite à lire un guide qui a été publié il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle « Qu'est-ce qu'une fondation open source ? Petite explication via LibreOffice ». Qui est rédigé par l'une des fondatrices de The Document Foundation et qui justement essaie d'expliquer le rôle de la structure légale vis-à-vis de la communauté, c'est-à-dire que c'est elle qui organise la communauté, mais c'est la communauté qui prend les décisions, par exemple, qui gère l'évolution du projet. Et c'est assez intéressant de comprendre l'implication de chacun. Et surtout, et là c'est ma dernière slide, de comprendre comment les entreprises qui souhaitent que les développements, par exemple, qu'elles vont payer un sous-traitant, ou qu'elles vont développer dans le cadre d'un projet communautaire financé, je voulais dire, par des fonds nationaux ou européens, qui souhaitent que ces développements-là soient mutualisés, reversés au pot commun. Comment le faire? Parce que la plupart du temps, il y a la théorie, il y a ce qu'on pense. Dans mon contrat avec mon sous-traitant, je lui ai imposé de reverser tout ce qu'il avait fait au projet libre d'origine. C'est très bien, le sous-traitant a signé, parce qu'on n'avait pas le choix. Et au final, la communauté lui dit non. Non, moi, le votre code, j'en veux pas, il est sale, il n'est pas documenté, il ne respecte rien. L'exemple de The Document Foundation est intéressant parce qu'il y a une politique très claire sur comment contribuer au projet. Si vous ne respectez pas la politique, même si vous êtes l'État, votre code ne sera jamais accepté. On a eu un autre exemple, et je finirai avec ça peut-être, c'était OpenStreetMap. Lorsqu'on s'est intéressé à l'open data a finalement intéressé le secteur public en France, le secteur public s'est dit, nous on a plein de données, on va les reverser à OpenStreetMap. Mais au début c'était mal fait, les licences étaient mal pensées, la communauté, le projet OpenStreetMap a dit non. Les contributeurs, les individus, personnes physiques, je reviens au terme tout à l'heure, ont dit à des régions, ont dit à des administrations, on ne veut pas de vos jeux de données. C'est très intéressant, mais faites le propre, faites les choses bien, et après on en rediscute. Ce qui est une manière de penser qui était complètement à côté de leur fonctionnement traditionnel. Bon, je finirai avec ces mots-là. Et si vous avez quelques questions.
Oui, on peut prendre quelques questions.
Bonjour, je vais te poser une petite question. C'est peut-être pas par rapport aux communautés, mais que penser du projet Chrome Chromium, qui est la réutilisation d'un code open source pour un projet qui reste lui-même gratuit, mais qui ponctionne derrière, par le biais de Chrome, beaucoup plus les données personnelles, et ainsi de suite.
Ah, il y a la réponse dans votre question, mais qu'en penser? En fait, Google est très très malin. Google est certainement la société qui gère le mieux le lien entre l'open source, le libre et l'open source, et les bénéfices que peut apporter ce nouveau modèle d'innovation de création, et l'entreprise classique avec des objectifs à long terme. C'est très malin. Après, qu'est-ce qu'on peut en penser? J'aurais tendance à dire que c'est aux développeurs, c'est aux utilisateurs de prendre conscience de tout ça. Voilà. Il y a une citation de Benjamin Bayard que j'adore. Alors, c'est plus appliqué au FAI, mais pour faire très simple, il dit qu'on a le FAI qu'on mérite. Mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que si, de notre côté, on ne prend pas conscience et on ne fait pas le choix qui est plus qu'économique, justement, on va un peu plus loin, donc un choix qui est éthique et sociétal. Si on n'est pas capable, en tant que développeur, en tant que contributeur, de penser à ça, ou en tant qu'utilisateur, de s'apercevoir que nos données, in fine, sont toutes reversées à une grande firme qui est outre-Atlantique. Mais bon, y a rien de plus à dire. C'est de la part de la société qui est derrière, c'est très malin. Et ça marche très bien. C'est nous qui sommes moins malins.
Bonjour, Alain Beau, Association Musique Libre. On va intervenir après, du coup, c'est pour ça. Je me présente un petit peu. Mais c'est juste que, du coup, par rapport au panorama des structures qui peuvent porter des projets de communauté, moi je pensais, enfin, je suis en réflexion par rapport au scope, au SKIC, ouais, et à ces choses-là. Est-ce que tu penses que c'est intéressant? Est-ce que. Je pense notamment au SKIC, parce que du coup, il y a une dimension bénévole qui est intéressante. Mais est-ce que du coup, ça ne peut pas être aussi un élément de réflexion en plus?
Si. Alors, pour être complet, la dimension commerciale permettre le développement, en tout cas, un modèle économique pour les membres du projet, c'est aussi ce qui a orienté LibreOffice vers la Fondation droit allemand, parce qu'ils peuvent avoir une activité lucrative. Donc, il ne faut pas l'oublier. Après, oui, sur le principe, les scopes, les SKIC, je suis tout à fait... J'ai vu quelques projets qui s'étaient orientés vers ce type de structure. Mais pour l'instant, ça reste... J'ai pas de succès en tête, pour être transparent. Donc, j'en suis là. Mais après, il faut pas non plus... faut pas se limiter à l'existant, parce que là, en plus, on raisonne vraiment à l'échelle franco-française, parce que ça n'existe pas. Parce que ce statut-là, il est français. D'autres pays ont d'autres statuts. Donc, pourquoi pas si ça répond aux besoins du projet? La difficulté est toujours la même. Je pense qu'il faut dissocier. Ce qui est important, c'est de dissocier la communauté de la structure qui accompagne la communauté. Pour revenir sur un exemple qui était cité tout à l'heure, Framasoft, il y a une vraie dissociation en notre sein. On le vit comme tel, mais même en pratique, dans les projets qui sont menés, entre l'association, on a une quinzaine de membres, d'administrateurs, et la communauté, où là, c'est des centaines et milliers de personnes qui contribuent de manière tout à fait différente et diverse, qui parfois ensuite intègrent l'association. Parce que là, on est limité en étant 15 personnes, mais d'un côté, on peut faire, prendre des décisions plus rapidement, on a des process plus souples. C'est un choix qui a été réalisé. Donc, faut bien comprendre, faut bien essayer de dissocier le rôle de la communauté de celui de la gouvernance du projet. Et éventuellement, ce qui est important, c'est de comprendre aussi la richesse. En fait, quelle est la richesse qui peut être parfois accessoire au projet. Le cas de Music Libre, je pense que c'est un peu la question aussi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui... je ne sais pas si les automasiques et compagnie sont toujours des projets en cours, mais il y a potentiellement des gens qui peuvent faire de l'argent autour de ça. Mais il faut s'assurer qu'ils ne le fassent pas au détriment de la structure, que leur propre activité développe celle de la communauté, donc de la structure. C'est toutes ces règles auxquelles il faut penser. Mais pour autant, ce n'est pas parce qu'ils vont développer du commerce, du business en dehors du projet qu'ils doivent être membres en part entière de l'administration des décisions stratégiques qui sont menées par le projet. On peut avoir plusieurs casquettes, on peut être présente partout, mais aussi on peut être très bien présent à l'extérieur, respecter la certification, la charte par exemple qui permet de réutiliser la base Music Libre. Je donne que des exemples comme ça, puis je n'ai pas suivi le projet depuis longtemps. Il faut penser à tout ça. Essayer de tout mettre dans la même structure, c'est dangereux, c'est compliqué, puis c'est pas du tout agile. Donc parfois c'est mieux d'essayer de disperser un peu, en tout cas de prendre un statut par besoin.
Bien, merci beaucoup. C'est un sujet très intéressant.